Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Marion. Elle exerce depuis 4 ans la profession de technicienne de laboratoire, un vrai métier de l'ombre qui représente pourtant un maillon essentiel dans le diagnostic et le traitement des différentes affections dont souffrent les patients. Bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Marielle.
Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui.
Je suis ravie d'être là.
Je sais que tu as eu en plus une journée de travail bien chargée. Tu as la gentillesse de m'accueillir virtuellement chez toi en cette fin de journée.
Bienvenue devant mon fil à linge.
Et oui, parce que moi, j'ai la chance quand même d'avoir la fonction vidéo en plus. Ouais, non, ça, franchement, c'est un privilège. Je vois les intérieurs des gens que j'interviewe, c'est très agréable. Marion, je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
Donc, je m'appelle Marion, j'ai 24 ans, je suis technicienne de laboratoire dans un grand CHU qui possède plusieurs hôpitaux. Donc, j'ai été diplômée en 2016. En le mois de juillet, j'ai commencé à travailler au mois d'août directement dans mon employeur actuel, mais j'ai changé de laboratoire entre-temps. Je fais pas mal de cuisine en dehors. J'aime bien préparer plein de petites choses pour quand je reçois des amis. Donc pas beaucoup en ce moment, mais ça va revenir.
Ah ouais, on y croit.
Oui.
C'est chouette. Alors du coup, une prise, ouais, t'as trouvé du travail très vite, quoi, juste après.
Ouais, très rapidement.
Juste après ton diplôme. Est-ce que tu peux me dire, quand tu étais petite, quelle carrière tu envisageais? Est-ce que tu avais des rêves, des souhaits, peut-être pour des études supérieures ou pas?
J'ai jamais vraiment eu de but de me dire, je vais être maîtresse, je vais être vétérinaire, tout ça. J'ai jamais eu vraiment d'idée. J'ai toujours aimé les sciences de la vie. Au lycée, mon prof de terminale qui m'avait dit, mais va faire une prépa. Je lui ai dit, non, certainement pas. C'est hors de question. Et donc, je suis rentrée en DUT et j'avais dans le but, à la base, l'optique de rentrer en école d'ingénieur après mon DUT, parce que c'est une passerelle qui est possible. Mais je me suis arrêtée, parce que vraiment, la paillasse me plaisait. J'avais pas envie d'être dans un bureau à diriger des gens. Donc, j'ai trouvé mon bonheur au bout de mes 2 ans d'études.
Alors, raconte-moi du coup tes études, comment ça s'est déroulé?
Donc, c'est sur 2 ans. Un DUT, on a pas mal de cours magistraux, mais aussi beaucoup de travaux pratiques. Donc, on avait vraiment fait énormément de matières de biologie différentes, on va dire. Beaucoup de microbiologie, de l'histologie, donc l'étude des organes en faisant des coupes, des choses comme ça. Très, 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 très intéressant. Et on fait un stage en 2e année. C'est un stage d'au moins 10 semaines, il me semble. J'en ai fait 15. Et j'ai travaillé sur la protéine qui s'agrège dans le cerveau des gens qui ont la maladie de Parkinson. C'était super chouette.
Donc hyper spécifique, quoi.
Ouais, ouais.
Très, très précis comme domaine.
Ouais, ouais. C'est une équipe de recherche qui voulait développer un traceur pour diagnostiquer la maladie le plus tôt possible, parce que c'est là qu'il y a des possibilités de prendre en charge, en fait. Et non, c'était vraiment très chouette. Donc j'ai fait une toute petite partie de leur travail final.
C'est, ouais, mais bon, un morceau de la chaîne, quoi.
C'est ça.
Dans la recherche. Quand tu parlais d'histologie, est-ce que pendant vos stages, on vous met du coup face à des échantillons de cellules humaines ou animales, ou comment ça se passe?
Alors, ça peut arriver. Dans ce stage-là, j'ai travaillé sur de la matière cérébrale, du coup, sur du cerveau, de souris, mais aussi de patients qui avaient fait don de leur corps à la science.
Ah.
Et du coup, pour extraire vraiment la protéine, puisque c'est beaucoup plus difficile de la synthétiser en laboratoire, là, elle était vraiment sous sa forme, entre guillemets, naturelle. Donc, c'était très chouette.
C'est intéressant de savoir parce que ces dons de corps à la science, c'est quelque chose qu'on entend, mais je pense qu'on réalise jamais vraiment à quoi ça mène. Et puis voilà, ouais. C'est la preuve que ça fait vraiment avancer.
Ça sert à quelque chose.
Oui, ça fait avancer la recherche.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est sûr.
C'était vraiment très chouette.
Ouais, j'imagine, hyper intéressant. Et tes études t'ont convaincu, t'ont plu, t'ont donné envie de poursuivre comme ça?
Ouais, ça m'a convaincu. Après, l'aspect recherche, c'est pas ce que j'ai préféré. J'avais plus envie d'aider les gens au concret, au quotidien, je pense, sans les voir forcément, puisque dans mon quotidien, je ne côtoie pas les patients. J'ai même pas passé le diplôme de prélèvement sanguin qu'on peut passer quand on fait nos études. J'ai choisi de ne pas le passer, c'était un peu un pari. Du coup, je reçois des petits bouts de gens dans des petits pots.
Ah oui, donc ça, c'est une ce diplôme pour devenir préleveur, c'est un rajout, en fait, au diplôme de base, on va dire.
C'est ça, c'est totalement facultatif. Et contrairement aux infirmiers, par exemple, on a besoin de passer un écrit, donc sur de la théorie. Et on a des épreuves pratiques où on doit faire un certain nombre de prélèvements en stage, puis passer quelques prélèvements devant un jury.
D'accord. Ah, j'ignorais ça. Moi, je pensais que quand on était technicien de labo, voilà, on était forcément préleveur aussi.
Non, pas du tout.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner le nom du DUT du coup que tu as passé? Comment est-ce qu'il s'appelle?
Alors, j'ai fait un DUT analyse, un DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique.
Oh, donc tout un programme.
C'est ça, parce qu'en fait, pour travailler en hôpital, donc en France, il faut un numéro ADELI. Et pour pouvoir obtenir ce numéro et exercer ce métier, il y a une liste de diplômes en fait qui est établie par décret. Et donc, selon les options même de DUT génie biologique, c'est pas accessible.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est vraiment certains DUT, certains BTS, certaines écoles autres. Ouais, ouais, c'est très réglementé.
Donc, toutes les personnes qui étaient dans ta filière n'ont pas du tout abouti au même métier à la fin.
Non, pas du tout, puisque dans mon DUT, il y avait aussi une option diététique. Donc, quand ils obtiennent leur DUT à la fin, ils sont diététiciens.
Ah, ouais,
et d'autres, c'était une option agronomie. Donc, ils ont une spécialité autre. En fait, ils font du travail, ils font des élevages de plantes, des choses comme ça que nous, on n'a pas du tout fait dans mon option.
C'est fou, puis vous vous retrouvez du coup avec un tronc commun, j'imagine.
C'est ça.
Et ensuite, chacun a ses spécialités annexes.
On a un tronc commun en première année. Tous nos cours magistraux sont communs. Et après, nos TD et TP sont plus spécifiques. Surtout, et en deuxième année, on est totalement séparés.
Ah, dis donc, c'est hyper intéressant. Ah ouais, je me doutais pas du tout d'un cursus comme ça. Et c'est bravo aussi du coup de réussir si vite, toi, à trouver dans quelle branche tu voulais exercer. Parce que du coup, j'imagine qu'au début, on peut être un peu perdu la première année.
Je savais que la diététique, j'avais pas envie d'expliquer aux gens comment manger, des choses comme ça. Et les plantes m'ont jamais vraiment attirée. Du coup, c'était vraiment l'étude du corps, des choses comme ça, des petites choses qui se passent à l'intérieur de nous.
Ah, c'est chouette.
C'était très chouette, ouais.
Donc les spécialités, on en a parlé. Toi, du coup, une fois que tu as été diplômée, t'as tout de suite été embauchée dans le laboratoire attaché à un CHU.
C'est ça. Donc j'ai attendu 2 semaines parce que je déménageais, j'ai cherché du travail et j'ai commencé mi-août. Donc ça s'est fait, ouais, très rapidement.
C'est une filière qui embauche, je veux dire, où il y a de l'emploi, comment ça se passe actuellement ?
Il y a du boulot, oui, oui.
C'est vrai ?
S'il vous plaît !
En ce moment, j'imagine, d'autant plus, mais je veux dire,
d'autant plus.
Même ces dernières années, c'est une filière vraiment qui embauche, quoi.
Ah oui, oui, puisqu'il y a, bah, y a des départs à la retraite continuellement, il y a des équipes qui se créent, il y a des techniques qui s'ajoutent, donc on a besoin de plus de personnel parfois. Donc oui, oui, il y a des choses, on a besoin de monde.
Et toi, à ce jour, si tu souhaitais changer d'employeur, dans quel autre domaine est-ce que tu pourrais exercer? Juste donner quelques exemples.
Soit je pourrais faire une mutation dans un autre CH en France. Sinon, je pourrais travailler en laboratoire privé, mais du coup pas en les laboratoires périphériques où on va faire sa prise de sang le matin, puisque du coup, je n'ai pas le diplôme. Il faudrait que je le passe, le diplôme de préleveur. Mais dans ces laboratoires privés, il y a des plateaux techniques, en fait, où tous les prélèvements des laboratoires périphériques sont envoyés, et du coup, il y a des possibilités de travailler là-bas. Ou sinon, en équipe de recherche, dans n'importe quel secteur.
Ça veut dire qu'un laboratoire privé embauchera principalement des techniciens laboratoires qui peuvent prélever?
C'est ça, préférentiellement, c'est ce qu'on voit dans les offres d'emploi, c'est diplôme de préleveur sanguin exigé.
Et qui font du coup toute la chaîne, quoi, du prélèvement
c'est
jusqu'à
ça.
L'analyse.
C'est ça.
Okay. Oui, ça paraît plus cohérent dans un plus petit environnement, oui, on s'y attend.
Sachant que certains préleveurs ne font vraiment que du prélèvement toute la journée, et ils font pas du tout d'analyse, ça vraiment dépend des organisations.
Oui, et puis de la taille des
structures. Ouais,
des structures, ça doit être différent. Ah, ouais. Du coup, en parlant de ces préleveurs, alors même si je sais que toi, tu n'as pas la spécialité, mais est-ce qu'il y a des gestes que les préleveurs ont le droit de faire, n'ont pas le droit de faire par rapport à un infirmier?
Il y en a très peu qu'on a le droit de faire, on va dire. Donc, on fait prélèvement au pli du coude et prélèvement au talon chez les nouveau-nés, ce qui se fait de moins en moins, mais le principal prélèvement, c'est les prélèvements au pli du coude. Pas de cathéter, pas de voie veineuse, tout ça, on n'a pas le droit. Dans les laboratoires périphériques, il y a soit des techniciens, soit des infirmiers qui travaillent conjointement. Donc je pense que selon les difficultés, il y a possibilité de faire appel.
Bien sûr.
Je pense.
Ouais, et moi j'avais travaillé dans un grand hôpital à Lyon et on avait les techniciens de laboratoire qui venaient pour faire les prélèvements sur nos patients.
Ouais.
Et par exemple, je sais qu'ils n'avaient pas le droit de prélever sur les voies veineuses centrales ou sur les chambres implantables. Voilà, ça c'était réservé aux infirmiers.
C'est ça.
Et je crois qu'il y avait une seule de leurs employés qui était infirmière qui avait le droit. Donc on était toujours contents quand elle arrivait le matin. Parce que...
Ah, c'est toi, fabuleux.
Ouais, on dirait chouette, elle va pouvoir tout faire. Alors du coup, pour l'emploi que tu occupes actuellement, tu m'as dit que tu travaillais en parasitologie et en mycologie.
Oui.
Est-ce que c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Et c'est super glam. Hein.
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup sur quoi tu travailles, en quoi ça consiste?
Alors en fait, le but de mon laboratoire, donc, c'est de diagnostiquer biologiquement et de faire les suivis donc des mycoses des patients et des parasitoses. Donc parasitoses, on en a 2 catégories principales. Les parasitoses sanguines, avec la plus importante, on va dire, la recherche de paludisme, puisque c'est une urgence vitale. On doit traiter le prélèvement dans les 4 heures après prélèvement. Enfin, c'est...
Ah oui.
Ouais, c'est pareil, c'est des décrets qui sont faits parce que c'est une urgence vitale.
D'accord.
un patient peut aller très très vite en réa et très très vite se dégrader avec un paludisme.
Ouais, donc vous avez un clignotant rouge qui s'affiche.
Il y a l'interne qui court et qui va chercher le prélèvement.
Ah, j'imagine. Ouais, j'imagine.
Et du coup, l'autre grande catégorie, c'est les parasitoses digestives. Donc les patients qui reviennent de voyage, qui ont bu dans des eaux pas très propres, qui ont des fruits, des légumes rincés avec de l'eau pas très propre, et qui ont des petits habitants dans l'intestin.
D'accord.
Voilà.
Donc ce sont pas forcément des prélèvements sanguins qui t'arrivent.
Bah les seuls prélèvements sanguins quasiment c'est pour le paludisme.
OK, d'accord.
Sinon tout le reste on a en ce moment on a vraiment beaucoup de prélèvements respiratoires. Donc des expectorations, des aspirations bronchiques, des lavages bronchoalvéolaires. Mmh. Et après toutes sortes de biopsies de partout, de liquides de partout. dans lequel donc on recherche beaucoup de champignons.
Comment est-ce que vous êtes protégés vous du coup ?
Alors, on travaille donc avec une blouse, évidemment, avec des gants. On ne technique rien sans gants. On gronde les internes quand ils font des choses, comme ça. Et on travaille sous PSM, donc c'est un poste de sécurité microbiologique. C'est une sorte de... comment expliquer ? De grosse hotte de cuisine, où il y a une vitre et on passe les mains. Et il y a un flux d'air qui est filtré, qui nous protège et qui garde aussi le prélèvement stérile. Parce que des spores de champignons, il y en a dans l'air. Donc, ce serait dommage de traiter des patients pour des champignons qu'ils n'ont pas.
Ouais, des spores S-P-O-R-E-S. Hein, on n'est pas en train de parler de la pratique sportive. Hein.
Non, pas du tout. Des sortes de petites boules rondes qui volent partout. Exactement. Et qu'on ne voit pas.
Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est pensé pour, bien sûr, vous protéger.
Ça nous protège, ça protège le prélèvement aussi.
Mm-hmm. Ouais, pour qu'il reste bien stérile. Ouais.
C'est ça. Nous, c'est des PSM de type 2, donc ça protège la personne qui technique et la chose techniquée, nos boîtes de culture, les boîtes de pétri, tout ça.
Mmh, exactement. Et en termes de taille, parce que j'imagine pas trop, puis ce sont des choses qu'on voit pas forcément. Tu es dans un environnement qui représente combien ? Alors pas au mètre carré près, mais juste pour avoir une idée. Vous êtes combien de personnes dans son laboratoire ?
On est que 6 techniciennes, que des filles.
Ah, girl power.
C'est ça. Et on a 3 internes tous les semestres. Et on a des biologistes qui sont plus nombreux que nous. Ils sont 7. Donc, c'est des médecins ou des pharmaciens qui valident les résultats, conseillent les cliniciens quand il y a sur des traitements, des choses comme ça, des posologies. Et donc, ils sont plus que nous parce qu'ils ne sont pas tous à temps partiel. La majorité sont maîtres des conférences en même temps qu'ils sont praticiens hospitaliers ou professeurs des universités. Donc, ça leur prend pas mal de temps.
J'imagine. Est-ce que vous avez des prélèvements sur lesquels vous avez une autonomie complète ? J'imagine que le biologiste, à la fin, certifie tous les prélèvements qui ont été faits. Il doit y avoir une procédure, je l'ignore, mais
c'est ça.
Vous avez quand même, vous, une autonomie sur la grande majorité des choses que vous traitez au quotidien ?
Alors, on est très, très autonome. Alors, il faut savoir que les laboratoires sont très cadrés par ce qu'on appelle le COFRAC, donc le Comité français à l'accréditation, qui a émis des règles, des normes, des choses comme ça, qui font qu'on a un certain chemin à suivre. On est tous habilités sur un certain nombre de prélèvements. On fait du maintien de compétences sur nos lectures. On trace tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment c'est assez
très,
lourd.
Très, très rigoureux, quoi.
Toutes nos techniques sont rédigées dans un logiciel dédié. Enfin, c'est vraiment très rigoureux. Ouais. Et du coup, on est autonome sur nos prélèvements, sauf un prélèvement particulier, une quantité insuffisante parfois. On demande aux biologistes ce qu'il faut prioriser parce que c'est pas à nous de prendre la décision. C'est à eux, en tant que médecin ou pharmacien, en fonction du dossier du patient, puisque nous, on n'a pas accès au dossier du patient, donc on ne sait pas.
D'accord. Okay.
En fait, la seule chose qu'on voit du prélèvement, donc c'est le petit bout dans le flacon, ou le liquide dans le flacon, et le bon de demande qui a été rempli par l'IDE, ou le médecin.
D'accord. Donc,
parfois, il y a quelques informations, immunodépression, voyage dans tel ou tel pays, choses comme ça. Mais la majorité est rentrée sur le logiciel des médecins, et du coup, on n'y a pas accès.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois de pas avoir l'histoire du prélèvement ?
Ah si, mais du coup des fois, enfin pour certains gros dossiers, on va dire, où il y a des choses intéressantes à voir, on va voir l'interne ou le biologiste qui nous explique, qui nous montre tout ça. Donc non.
Oui, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste, j'imagine, pour comprendre.
Pour comprendre d'où ça vient, c'est ça.
Ah oui, ça doit être passionnant. Ouais. J'imagine de rester juste sur le petit échantillon puis de pas avoir l'histoire de.
Ah, oui, des fois c'est frustrant, oui.
Et ils acceptent de partager avec vous ces informations confidentiellement, bien sûr.
En soi, on a accès aux résultats du patient, à son nom, son prénom, sa date de naissance. Donc nous, déjà, on est tenu par ce secret, hein, puisqu'on ne va pas dévoiler les résultats. Et du coup, oui, ils nous montrent, on regarde facilement les dossiers avec eux, ils nous expliquent tout ça. Non, c'est vraiment chouette.
Ah, tant mieux.
Oui. Ça arrive aussi que les internes nous fassent des présentations sur un gros cas du semestre où il s'est passé plein de choses, tout ça. Ils nous font un résumé, tout ça. Donc, c'est vraiment chouette.
Tu dois en apprendre des choses, j'imagine, même sur peut-être des maladies tropicales, des choses.
Ah, bah, ça fait 4 ans que je travaille là-bas et j'en apprends encore.
Ah, oui, tellement d'en avoir
Ouais,
fait le tour,
c'est ça.
j'imagine. Ah, ouais, ça doit être vraiment passionnant. Et est-ce que tu peux nous faire un peu le chemin d'un prélèvement? Alors, on va en prendre un en particulier pour que ça soit plus clair. Alors, je sais pas, celui de ton
On
choix,
va
mais
prendre un
pour.
prélèvement respiratoire parce que c'est ce qu'on a beaucoup.
Voilà, alors on va dire un patient qui rentre aux urgences pour tel ou tel problème. Comment ça se déroule?
Oui, ou un patient en pneumologie, choses comme ça, donc
Par
qui a des
exemple.
sécrétions, ou donc si le clinicien va faire un scanner, va voir des images qui peuvent indiquer une aspergillose, une pneumocystose, plein de choses comme ça, donc il va faire le prélèvement, le lavage bronchoalvéolaire, nous l'envoyer. C'est enregistré nous par un centre de tri qui scanne le bon, enregistre le prélèvement dans notre logiciel, nous colle une étiquette avec un numéro, nous l'envoie. Nous, qu'on reçoit le prélèvement, on va l'acquitter, c'est-à-dire on scanne notre prélèvement, on va rouvrir le bon de demande pour vérifier que ce qui a été prescrit est bien ce qui a été enregistré, qu'il n'y a pas eu des oublis, des choses comme ça. Et ça arrive régulièrement parce qu'on est la discipline qui vérifie tous ces bons de demande, contrairement aux autres. Enfin, c'est assez complexe parfois à enregistrer et comprendre ce que le clinicien a voulu, parce que des fois ils écrivent des petits trucs en plus sur le bon comme ça.
Oui, il y a toujours un peu la partie observation où on vous rajoute des infos.
Oui, ou même entre deux lignes, il y en a qui rajoutent des cases et qui la cochent eux-mêmes, c'est rigolo.
Ah, je vois très bien.
C'est vrai.
Je me demande même si je ne l'ai pas fait une fois.
Donc nous, bon, des fois ça nous fait rire, des fois, non mais ça n'existe pas, ça, c'est pas possible.
Et puis, il vous donne, j'imagine, des informations sur l'état clinique du patient. Il a de la température, il est revenu de tel
Pas
voyage.
spécialement. Des fois, on n'a aucune info et du coup, on le traite pour ce qui est demandé et c'est tout. Et
Ah,
des
ouais.
fois, en ce moment, on voit que c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, Covid grave, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on rajoute nous-mêmes que le clinicien n'a pas demandé mais qu'on va rajouter. Des examens en plus, plus approfondis, on va dire, plus spécifiques. Donc, une fois qu'on a quitté nos prélèvements, on va l'ensemencer sur des milieux de culture. Donc on en étale un peu sur notre boîte, on en met un peu dans un tube et on prépare une lame d'examen direct qu'on va colorer et lire dans un délai assez rapide. Ça peut être le lendemain si on le fait le soir avant de partir, mais sinon dans la demi-journée c'est lu en
Vous êtes
général.
suffisamment nombreux pour pouvoir gérer quand même ça dans un délai
Et
assez court.
même si c'est pas le cas, on fait en sorte des fois.
Ouais, j'imagine. Et puis vous avez aussi la possibilité de prioriser,
Oui,
j'imagine, les actes
bien
qu'on vous
sûr.
demande. Ouais.
Bien sûr, un LBA de mycologie sera plus urgent qu'une selle, par exemple.
Qu'est-ce que c'est un LBA?
Un lavage bronchoalvéolaire, pardon.
Ah, pardon, oui, bah voilà, donc ce
Oui,
dont on parlait, ouais.
ce sera plus urgent. Enfin, un prélèvement profond, on va dire, donc une biopsie, un liquide, sera plus urgent qu'un écouvillonnage de plis pour une petite mycose superficielle,
Bien
par
sûr,
exemple.
ouais.
Voilà, donc on va lire nos examens directs, et c'est là qu'on peut voir des éléments mycologiques, donc des levures. Une levure qui filamente, qui fait ce qu'on appelle un pseudomycélium, ou alors des mycéliums, justement, qui c'est en fait ce qu'on voit au microscope d'une moisissure. Si on regarde une moisissure au microscope, ça fait des sortes de filaments. Et du coup, voilà, donc on est aussi formé là-dessus, parce que personne ne relie les lames derrière nous.
D'accord, oui, on vous fait entièrement confiance
C'est
lorsque vous
ça.
diagnostiquez.
Ils nous font confiance parce qu'ils savent que si on a un doute, on va les appeler pour leur demander. J'ai appelé ma biologiste tout à l'heure, parce que j'avais un doute sur mycélium pseudomycélium.
Donc ces levures ont un aspect caractéristique. Quand vous
C'est
êtes au
ça.
microscope, ça a une forme particulière.
C'est ça. Et donc on les lit à la lumière ultraviolette. Donc ça fait un beau bleu sur un fond
Oh,
noir, c'est très joli.
dis
Et du coup après donc un LBA classique, on va dire, va être gardé 7 jours à l'étuve, donc à 35 degrés pour imiter ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps en fait. On va regarder les boîtes tous les jours.
Donc on attend de voir, nous c'est ce qu'on dit, on attend de voir si ça pousse.
C'est ça,
Alors,
c'est bah nous aussi.
il n'y a pas des plantes qui sortent de là, mais on
Bah,
attend de
presque, hein.
voir. Ouais.
Presque.
Ouais,
Si
on
une
met ça en
colonie
étuve et on
apparaît.
essaye de voir ce qui se développe au bout
C'est
de
ça.
certains jours. C'est pour ça que parfois certains patients ont du mal à comprendre quand on leur dit c'est parti en culture. Ils disent mais j'ai toujours pas les résultats de mes
Oui,
prélèvements. Mais oui,
oui.
parce qu'on n'a pas le résultat
Exactement.
instantanément.
Bah, les prélèvements superficiels, on va garder les cultures que 3 jours, parce que notamment pour une aisselle ou un pli à laine, on attend une levure. Donc en 3 jours, ça a largement le temps de pousser. Pour certaines mycoses exotiques, on garde les tubes 2 mois.
Ah, 2 mois.
Donc, des fois, le clinicien appelle, on lui dit, oui, bah, rappelez-nous dans un mois et demi, hein.
Et ça vous arrive d'avoir des choses qui poussent plus de 1 mois et demi, 2 mois après?
Souvent, après 3 4 semaines, ça commence à pousser.
Ah, punaise.
Mais c'est des mycoses très particulières, donc ça arrive peu souvent.
D'accord. Oui, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, le patient,
Ah bah il attend.
on va le traiter pas à l'aveugle, mais avec quelque chose avec un plus large spectre, jusqu'à savoir exactement ce dont
C'est
il
ça, le
souffre,
traiter
quoi.
ou pas selon la pathologie et
Bien
selon
sûr.
les germes associés, mais oui.
Ah là là, c'est fou, ouais. Oh bah dis donc, bah faut avoir de la place pour stocker tout ça aussi.
Ah ben, on a plusieurs étuves à plusieurs températures, parce que tout ne se met pas à 35 degrés. Par exemple, tout
Ah
ce qui
ouais.
est la peau, les ongles, c'est pas à 35 degrés sur notre corps, c'est plutôt à 25. Du coup, on a une étuve qu'à 25. Donc c'est, ah oui, c'est une organisation incroyable.
Ouais, j'imagine une des qualités pour faire ton métier, c'est ouais, pour exercer ton métier, c'est d'être vraiment hyper organisé, quoi.
Ben, j'étais pas si organisée que ça avant, et on va dire que je le suis plus au boulot que dans mon quotidien, en fait.
Eh oui, il faut avoir
Tant
une
qu'on a...
rigueur
C'est
qui
ça.
s'impose, quoi.
C'est ça. Parce qu'il y a quand même des patients derrière qui attendent le résultat, qui attendent une identification juste pour avoir le bon traitement par le clinicien, des choses comme ça.
Et à quelles difficultés est-ce que vous vous exposez au quotidien? De difficultés de tout ordre, de moyens, de... je sais pas.
Ah, de manque de bras parfois. Parce qu'on est 6 techniciennes, mais on est que 4 à temps complet. On a aussi un 75% et un 90%, donc on n'est que 5,65 en soi.
Ah oui.
Et régulièrement, les biologistes rajoutent des choses. Ah, on va mettre ça en place. Allez, maintenant, on va faire ça en plus pour tous ces prélèvements-là. Et tout, on les regarde, on les dit, oui, bah, d'accord. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Ça arrive qu'on ait des grosses, grosses journées. Mais on est une équipe, donc ça va.
Ouais,
Quand
c'est...
une a fini un poste, on va filer un coup de main à l'autre pour lui relire ses selles. C'est pas notre poste, mais c'est pas grave, sinon elle sera là jusqu'à 19h, donc c'est pas le but, quoi.
Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, hein.
C'est
Est-ce que
ça.
vous avez un système de garde aussi, du coup, j'imagine, la nuit, le week-end
Alors, j'ai la chance d'être dans un labo cool, où en fait, on fait des samedis matins. On fait un samedi matin sur 6, du coup, vu qu'on est 6, et on n'a pas de nuit et on n'a pas de week-end.
Ah, oh, super.
Alors que la bactériologie tourne en 24-24, par exemple. Mais nous, vu que notre seule urgence vitale, c'est le paludisme, les autres prélèvements, il peut y avoir des choses importantes, mais c'est pas aussi urgent. La nuit et le week-end, c'est fait par les internes qui sont de garde en bactério.
Ah d'accord, ils arrivent à être autonomes comme ça le
Ah,
week-end.
c'est leur tâche.
D'accord,
C'est
bah,
une de leurs
ils sont là pour
fonctions.
ça.
Ils sont là pour ça, pour lire les paludes.
Oui, donc eux, ils assurent ce suivi-là. Oh,
C'est
ouais,
ça.
c'est chouette.
C'est
Ça veut
ça.
dire que sinon, si tu étais dans un autre laboratoire, hématologie, bactériologie, tu aurais probablement ce système de garde de nuit, de
Ah
week-end.
oui. Bah, quand j'ai commencé en biochimie et j'étais sur un poste en alternance jour-nuit, donc je faisais du 19h-7h régulièrement.
Là 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 là. Oh,
Toute
ça,
seule avec
c'est...
l'interne. Ah bah, on buvait du thé pendant les pauses, c'était bien.
Ah, c'est sûr. J'ai toujours un peu mal au cœur, moi, quand je suis au travail et qu'il faut que j'appelle le laboratoire
Ah non, mais ça, non. Bah,
pour un
moi,
prélèvement la
ça allait,
nuit.
c'était bien.
C'est vrai, bon, on fait
Ouais.
vraiment, bien sûr, on garde l'essentiel et puis on a aussi des machines, enfin, en tout cas, moi, en soins intensifs, qui nous permettent
Oui.
d'avoir des résultats de base
En
avec des.
biologie délocalisée, oui.
Voilà, on peut le faire nous-mêmes, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes,
Ouais.
mais c'est vrai que parfois, on est, voilà, on est bien sûr obligé de réveiller la personne qui est de garde au laboratoire, mais.
Alors, on ne dort pas la nuit, contrairement à ce qu'on pense.
C'est vrai, pas du tout.
L'un,
Ah ouais,
l'un,
vous avez.
l'interne va faire des siestes parce que lui, il travaille déjà depuis 8h30 le matin, puisqu'ils font des gardes de 24 heures. Mais nous, on ne dort pas. Dans mon CHU, on ne dort pas.
Y a pas de lit, ça n'existe pas.
Alors, il y a des fauteuils qui s'allongent un peu, mais on ne dort pas.
Ouais. Bon, un peu comme partout, quoi, c'est
C'est ça,
sûr.
pour les
Ouais.
creux de la nuit, pour se poser un petit
Exactement.
peu et boire un petit coup.
Juste le fait d'avoir les jambes un petit peu surélevées, c'est quand même un luxe en soi,
C'est
mais
ça.
ouais, je crois que c'est
Être
partout
sur un
pareil.
tabouret haut, car
Ouais.
roulette, c'est pas le plus confortable toute la nuit.
C'est vrai. Et est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé quelque chose pour vous au laboratoire?
Alors, on a été 2 sur 6 à avoir été un peu réquisitionnés à venir faire du centre de prélèvement, donc on n'était pas préleveuse, parce qu'à ce moment-là, le décret comme quoi les techniciens de labo pouvaient prélever n'était pas encore passé. Maintenant, il l'est.
Ah, ok, maintenant c'est le cas.
Maintenant, on peut faire du nasopharyngé, ouais.
D'accord.
Et du coup, on a fait de l'enregistrement, un peu de secrétariat aussi, quand les patients arrivaient au centre de prélèvement. Donc, oui, mais je comprends pas, j'ai pas encore mon résultat. Oui, ben, on vous a dit dans 2 jours, ça fait que 24 heures, attendez un peu.
Oh là là, ouais.
Et ouais, c'était compliqué, ouais. Parce que aussi, les patients qui font des Covid, donc, qui ont d'autres pathologies, des comorbidités, des choses comme ça, sont à même de faire des aspergilloses pulmonaires. Donc, en fait, c'est une moisissure qui se met bien dans les poumons et qui fait sa vie. Et c'est pas très, très agréable. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de prélèvements respiratoires en plus et on en a toujours plus qu'avant. J'ai l'impression qu'on a vraiment plus de prélèvements qu'avant.
C'est vraiment une complication que vous avez notée,
c'est ça.
Quoi.
C'est ça. Ah oui, il y a des certains de mes biologistes ont publié des articles comme quoi vraiment il y avait une corrélation. Enfin, c'était déjà noté après certaines grippes. Il y a des patients qui faisaient des aspergilloses pulmonaires et ça se vérifie sur le Covid. Donc une fois qu'ils sont sortis de ça, il y a encore quelque chose derrière.
On entend hein, des histoires de gens. Alors, il y a des gens asymptomatiques ou qui ont très peu de symptômes, puis il y a des gens, ça dure des mois entiers, puis c'est complication sur complication.
C'est horrible, ça. Quoi. Oui, parce que le Covid dure un temps, mais après, il y a tout ce qui est arrivé derrière qu'il faut résoudre. Quoi.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et le fait d'aller donner un coup de main comme ça au centre de prélèvement, c'était sur la base du volontariat pour vous ou...
Oui, c'était sur « Marion, tu fais quoi ce week-end ?»« Rien, puisqu'on est confiné. »« Bah, tu viens bosser ?»« Bah, d'accord.
» Oh, ma pauvre.
Oui, bah bon.
Ouais, en heures supplémentaires, alors
Pas vraiment. C'était pas des heures supplémentaires, on avait des jours de récup en fait. On a compensé par rapport à la semaine. Mais les dimanches c'était bien parce qu'on était payé un petit peu plus de la prime du dimanche. Mais sinon, c'était vraiment des jours classiques niveau salaire, on va dire.
Et qu'est-ce que tu voudrais dire à peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui est au lycée ou qui est en pleine reconversion professionnelle et qui aurait envie de devenir technicien de laboratoire, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ?
Ah, qu'il faut se lancer parce qu'on apprend plein de trucs tout le temps. C'est super chouette. Il y a vraiment plein de possibilités une fois qu'on a ce diplôme. Il y a de faire, une fois qu'on est dans un CH, on peut changer de CH, changer de discipline au sein du CH. Enfin, c'est vraiment super. Il y a toujours des opportunités dans des équipes de recherche. C'est vraiment chouette. On apprend plein de trucs.
J'imagine. Bon bah c'est chouette Marion, en tout cas on sent ton amour pour ce que tu fais, c'est génial. Et puis je crois que j'ose pas imaginer le domaine de compétences, le nombre de trucs que tu sais de,
On a une bibliothèque ou alors ça je dois faire ci, donc je sors alors le dossier LBA.
Et est-ce qu'on devient pas un peu phobique du germe ou à l'inverse, du coup à force d'en voir on stresse moins ou comment ça se passe?
Phobique, je dirais pas ça, mais il y a un an ou deux, on avait fait un repas de service à la fin du semestre avec les internes, la chef de service, tout ça. Personne n'a mangé de steak tartare.
Ah ouais.
Personne. Personne.
J'adore ça, mais c'est vrai que je fais hyper gaffe aussi, quoi. Je mangerai pas ça n'importe où, quoi.
Parce que le petit ténia, il peut arriver très très vite.
Ah, le ténia.
Oui, le ver solitaire.
C'est ça, c'est l'immense ver qui se nourrit.
On en a un presque entier au labo. C'est trop chouette. Il est dans
c'est
un grand bocal. Ouais.
Dans du formol ou
Ouais, c'est ça. Dans un bocal en verre scellé et il est enroulé autour d'une grande plaque. Et donc il y a sa tête et puis il y a la fin.
Plein d'anneaux, quoi. Enfin, ça...
C'est ça, parce qu'en fait, le ténia, donc il a une toute petite tête, c'est vraiment une tête d'épingle. Et au début, les anneaux sont mâles, sont de genre mâle. Et au fur et à mesure qu'il grandit, les anneaux deviennent femelles, en fait. Ils sont pleins d'utérus. C'est un utérus avec plein de branches. C'est compliqué à expliquer.
Et donc j'ai même pas envie d'aller faire une recherche sur Google Images.
Non, c'est pas dégoûtant. Enfin, c'est des sortes de petits carrés blancs avec plein d'utérus. Ils sont pleins d'œufs et en fait, pour se reproduire, ils lâchent ces anneaux qui du coup sont pleins d'œufs pour aller coloniser d'autres êtres vivants. C'est comme ça qu'ils se reproduisent.
Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir un truc comme ça ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a évacué par voie naturelle ou
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on trouve généralement les œufs dans les selles.
D'accord.
Dans les selles des patients. Et sinon, ça arrive qu'un service nous envoie un anneau trouvé dans les selles.
Bon, j'espère vraiment que personne n'est en train de manger en écoutant cet épisode. Je suis navrée.
J'ai des anecdotes pires, donc...
Vas-y, on en voit encore une.
Une fois, l'interne qui arrive, « Marion, il se passe un truc de ouf !» Je dis, « qu'est-ce qui se passe ?» Et une patiente qui a vomi un verre, il nous l'envoie. Et on l'a gardé. On l'a appelé Boris, parce que c'est un ascaris.
Ah oui, vous en êtes à ce stade-là, vous leur donnez des noms.
Mais ils sont devant une sorte de petite fenêtre dans un mur en fait qui communique entre le couloir et notre pièce. Et chacun, ils sont dans leur petit pot et on leur donne un nom qui rime avec leur espèce.
Oh là
voilà,
là,
c'est nos mascottes.
Ah, vous devez en voir des trucs.
Ouais, mais au final, on en parle quand on mange, ça nous dégoûte plus, quoi. Enfin.
Ouais, ça c'est un truc aussi dans tous nos métiers médico-paramédicaux.
Les selles, bah voilà, c'est pas grave quoi.
Moi je suis pareil, puis je m'en rends bien compte quand je mange avec des copains qui sont pas du milieu, je vois la tête complètement dégoûtée que les gens ont.
Arrête de parler de ça.
Comment tu fais pour manger en racontant des trucs pareils? Bah je sais pas, ça me fait rien.
Non bah non, ça fait plus rien.
Oh bah dis donc, j'ai bien envie de partager un petit repas avec toi Marion.
Ah mais avec plaisir. On avait parlé des bons gestes de l'IDE pour que le technicien soit content.
Ah oui, alors l'IDE, donc l'infirmière diplômée d'État, ou infirmier oui. diplômée d'État, c'est vrai que je t'avais posé la question dans le mail que je t'avais envoyé. Donc voilà, moi en tant qu'infirmière, j'effectue des prélèvements pour mes patients, qu'ensuite j'envoie au laboratoire, et en gros ma question c'était, est-ce qu'il y a un prélèvement parfait, ou est-ce qu'au contraire les infirmiers parfois font des choses qui vous agacent, qui vous font perdre du temps, qui...
Oh oui.
alors je prends des notes, vas-y.
Le prélèvement parfait, c'est un prélèvement dans le bon contenant.
Ouais,
déjà. L'ordre des tubes pour une prise de sang, c'est un ordre capital. Nous, on doit l'apprendre quand on passe le certificat de préleveur sanguin. Alors que je ne sais pas si vous avez des cours dessus en UFSI.
Si. En tout cas, moi, je sais que je l'ai appris.
Très bien. Bravo.
Je pense à l'école d'infirmière, mais je ne suis pas bien sûre. Mais en tout cas, je l'ai appris, c'est certain.
Donc, l'ordre des tubes, la quantité aussi dans le tube. S'il y a un trait sur le tube, ce n'est pas juste pour faire joli.
C'est qu'il faut le remplir jusqu'au trait.
C'est ça. Même, on comprend des fois les patients difficiles à piquer, tout ça, ou on les gosse du sang. Les tubes de sang passent sur des machines. Du coup, ce n'est pas de notre faute. S'il n'y en a pas assez, la machine ne prélèvera pas.
Bien sûr.
En fait, on ne mélange pas les tubes. On vide pas le contenu du violet dans le verre, surtout
non,
pas.
Parce qu'il y a des réactifs dans les tubes.
C'est ça, mais ça, je sais pas si tous les idéaux le savent, parce qu'une fois, je passe mon tube de sang quand j'étais en biochimie, et je retrouve un potassium à 12 et un calcium à 0. Donc je m'inquiète.
Quand même un problème.
Voilà, c'est ça. Donc j'appelle l'IDE, elle me dit, mais non, mais pas du tout, j'ai privé dans le bon tube. Je dis, mais vraiment, vous êtes sûre? Bah je sais ce que je fais quand même. Je dis, bah je suis désolée, votre patient est mort. Bon bah je vais reprélever. Bah oui, voilà, on va faire ça.
Il y avait pas un tout petit peu de mauvaise foi dans ce discours.
Bah je sais pas trop. Et après, il y a des choses qui sont mal connues. Par exemple, je recevais aussi des seringues de gaz du sang qui sont censées être purgées à la fin du prélèvement pour évacuer l'air de la seringue. Là, j'appelle l'infirmier, il me dit oh, « Je suis vraiment désolée, j'ai oublié, est-ce que vous pouvez le faire ?» Je dis pas non, parce qu'en fait, en une heure, les gaz ont eu le temps de s'échanger, donc ce sera pas le résultat du patient.
Et oui, les gaz du sang, donc ce sont des prélèvements qu'on fait sur des artères, donc très souvent une artère au niveau du poignet, ou parfois en fémoral, et donc on analyse vraiment ça porte bien son nom, les gaz du sang, voilà, donc ce qui se passe dans le sang, CO2, etc. Et oui, si le prélèvement contient lui-même de l'air, le prélèvement...
Ça n'a plus aucune valeur.
Ouais. Voilà, ça n'a plus aucune valeur, ça serait comme, je sais pas, mettre de l'eau en contact avec encore un peu plus d'eau, ben, au bout d'un moment, ça dégule.
Oui, exactement. Ah ouais. Quand c'est prélevé du côté du braque à la perf, enfin, vous voyez plein de choses en biochimie.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que nous aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis, on est parfois confrontés à des patients très difficiles à piquer.
Oui,
ça nous fait enrager aussi de pas réussir à remplir les tubes, mais c'est vrai que parfois, avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrive pas.
C'est ça. Donc voilà, c'est le bon contenant, la bonne quantité, l'étiquette sur le bon et sur le tube. Du bon patient, tant qu'à faire. La même sur les deux.
S'il y a des infirmiers qui écoutent, vous prenez des notes. Hein.
Et un acheminement plutôt rapide, un bon bien rempli avec les cases cochées. Alors, le top du top, c'est un numéro auquel appeler s'il y a un problème. Parce que des fois, on perd 10 minutes à chercher dans l'informatique. Oui, ah non, alors il est dans le secteur 2. Bah, vous avez le numéro? Bah non. Ah, d'accord. Alors, attendez.
Je le retiens, ça, tu vois. C'est pas quelque chose que je... Maintenant, je travaille dans une petite clinique, donc je pense qu'on se retrouve facilement, mais dans un grand CH...
Des fois, ça nous facilite la vie quand il y a un numéro écrit sur le bon, quoi. C'est vraiment le rêve. Voilà. Ah,
ouais. Bah écoute, voilà, on a déroulé le guide du prélèvement parfait.
C'est ça.
Bon, tout le monde a bien pris ses petites notes.
Allez, examen, maintenant.
Merci beaucoup Marion, c'est hyper intéressant d'en savoir davantage sur ce vrai métier de l'ombre, parce que là pour le coup, je crois que ça vous caractérise bien le métier de l'ombre.
C'est ça, parce que je pense que souvent des patients ne se rendent pas compte que le prélèvement c'est pas hop, on l'envoie et pouf, le résultat revient, c'est magique.
Ouais, ou des machines, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'automatisé, quand même. Hein.
Alors, de plus en plus, c'est automatisé, de la biochimie, l'hématologie, la bactério commence à l'être de plus en plus, mais je suis très contente que dans ma discipline, on fasse encore tout à la main, on étale sur nos petites boîtes et on passe énormément de temps au microscope, nous-mêmes, à regarder les prélèvements, et ça, c'est vraiment super chouette.
C'est sûr. Ouais, dans le secteur dans lequel tu es...
Quasiment tout se fait à la main.
C'est vos yeux qui comptent le plus, quoi.
C'est ça.
Alors, on va finir cette petite interview par un portrait chinois.
Oui.
Dont j'ai adapté les questions. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, je voudrais bien des lunettes microscope pour pouvoir me poser et lire tranquille dans un bon fauteuil et pas devoir être sur mon microscope, dans une salle, sur une chaise pas confortable. Ouais, un petit microscope de poche portable que je peux clipser directement devant mes yeux.
Et d'ailleurs, je le dis parce que vu que c'est un podcast audio, les gens ne le voient pas, mais tu portes des lunettes.
Oui.
Comment ça se passe avec un microscope ?
Ah, ça gêne pas du tout.
Ça gêne pas.
Certains préfèrent lire sans, selon... leur pathologie oculaire, on va dire. Moi, je lis avec, ça me dérange pas du tout.
Ça pose pas de soucis.
Non.
De toute façon, vous faites tous vos réglages à chaque fois que vous
rouvrez
sur le microscope, vous redémarrez tout à zéro. Ok. C'est une petite question à toi comme ça. la question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
Eh ben, je pense que c'est quand j'appelle soit les services, les IDE, les médecins, soit les autres labos. Oui, bonjour, c'est la mycologie ou la parasito selon le secteur dans lequel je suis, selon mon poste. Mais je pense que c'est ça, ce que je dis le plus dans ma journée.
question suivante, si tu étais un champignon, et donc je ne parle pas ni de mori ni de bolet, hein,
non.
Lequel serais-tu ?
Alors, j'aime beaucoup. Je pense que mon préféré, c'est le rhizopus oryzae. Oh. C'est une moisissure de l'environnement qui, quand on le met dans une boîte de pétri, pousse de manière à la remplir totalement. Des fois, parfois même, ça pousse le couvercle. C'est un champignon. Enfin, moi, je l'appelle le champignon barbapapa un peu. Ça fait des filaments très aériens et c'est très joli. Et au microscope, c'est très joli aussi.
Comme de la moisissure qui remplit vraiment jusqu'au couvercle.
C'est ça, ça remplit la boîte. Ouais. Oh, okay. Comme une toile d'araignée ou une barbapapa, un peu.
Oh, c'est un peu effrayant quand même, mais écoute...
Ouais, non, mais c'est joli, ça a l'air doux, j'ai jamais touché du coup, parce que ça, quand même, mais ça a l'air doux.
Et le nom, redis-nous ça, le nom est très poétique.
Rhizopus oryzae.
Enchanté.
Mais il y a des trucs beaucoup plus complexes. Hein. Si je te dis Chrysonilia cytophila tetrasperma, par exemple...
Mon Dieu.
Ah là, celui-là, il est très joli aussi, il est un peu rose-orangé, c'est sympa.
Et puis au Scrabble, c'est mon compte triple, ça, je crois.
Bah, je sais pas si on a le droit au moins en latin au Scrabble.
Ah ouais, c'est peut-être triché.
Pour
voir si c'est dans le dico. Hein.
Non, je suis pas sûre. C'est dans nos dico à nous. Mais...
Sinon, il y a une carrière à faire dans les championnats de Scrabble. Il y a moyen de gagner des trucs. Hein.
Je vais me lancer.
la question suivante, plutôt crocs ou basket ?
Basket, parce qu'on piétine beaucoup, on fait des allers-retours et basket.
Ouais, j'imagine. Et les prélèvements, d'ailleurs, vous arrivent de quelle façon ?
Alors, c'est un peu magique. On a une sorte d'ascenseur à prélèvement. Donc, le centre de tri met ça dans une caisse et on a une plateforme qui descend et ça sonne chez nous quand on a quelque chose à venir chercher.
Pouah, grand luxe. Pour ça, c'est vraiment le truc dans les grands hôpitaux, c'est vrai que...
Oui, parce que sinon, en général, c'est des tournées qui se font à la main selon les heures, les choses comme ça.
Ouais. Moi, j'avais fait un stage quand j'étais étudiante dans un hôpital à Lyon, l'hôpital Édouard Herriot, qui est un hôpital immense. Et on faisait passer les prélèvements dans ce qu'on appelle un pneu, donc un pneumatique.
Oui.
Et très régulièrement, il y avait un prélèvement qui se coinçait, puis bien sûr, ça tombait toujours sur le prélèvement qui ne devait pas se coincer parce que tu avais mis 10 minutes à prélever. Ou...
Bien sûr. Et là, pour arriver au centre de tri, en fait, les prélèvements passent par ce pneumatique, justement.
D'accord.
Et après, le centre de tri en déballe, enregistre et nous envoie par secteur, en fait. Parce qu'on n'est pas tous au même étage.
On n'arrête pas le progrès.
C'est ça.
Alors moi, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, mais c'est vrai que quand j'ai découvert ça, quand j'étais étudiante, j'ai trouvé ça fascinant. Quoi.
Ah, moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai dit « mais c'est génial
!» Qu'on ait créé carrément un circuit pour les prélèvements comme ça.
Circuit de parachute.
Ah ouais, j'ai vraiment, c'est un côté assez fascinant. la question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
10 ans dans le même laboratoire, je pense. Je suis restée que 8 mois dans mon premier labo, mais là vraiment, enfin, j'ai pas fini d'apprendre, je pense. Et aussi, c'est tellement long d'être habilitée à tous les postes, d'être autorisée à tout faire et à tout rendre, que non, c'est pas rentable. Donc 10 ans dans le même lieu.
Oui, et puis finalement, avec ces internes qui changent régulièrement aussi, ça, c'est intéressant, quoi, d'avoir
tout le
temps de nouvelles personnes.
Ah, ouais. Tous les 6 mois, on recommence. Donc on réapprend, on leur réapprend. Et Non,
mais
c'est
gratifiant aussi, je pense.
Oui, c'est sûr.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier de technicien de labo, vers quelles études ou vers quel autre métier te serais-tu orientée?
Vu que j'avais pas trop d'idées à la base de ce que je voulais faire, c'est compliqué de répondre à cette question, mais j'aurais peut-être fait des langues, je pense.
Ok.
Après, quoi précisément, j'en ai aucune idée.
Bah, du latin, clairement.
Non, j'en ai fait au collège, ça suffit. J'ai eu de très très bonnes notes en langue au lycée. Ça a bien aidé ma mention, on va dire.
Ouais.
Et je pense que j'aurais peut-être fait des langues.
Ok. Eh ben, un grand merci, Marion.
Merci à toi.
Vraiment, je crois que j'ai pas réalisé la diversité du métier, les responsabilités que vous avez, c'est chouette, c'est vraiment.
Et encore,
c'est
là, je suis que sur une discipline.
Oui, exactement. Voilà, on est vraiment sur, on a déjà vachement
centré
le discours, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Un grand merci, Marion.
Je t'en prie.
Et puis bonne continuation.
Merci à toi aussi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup à Marion d'avoir partagé son quotidien de technicienne de laboratoire. Si mon podcast vous plaît, je vous invite à lui laisser 5 belles étoiles et à le partager à vos amis, collègues ou toute personne cherchant à se renseigner sur les métiers du domaine médical et paramédical. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.